Dans tes oreilles, l'émission des GBU.
Bonjour et bienvenue dans tes oreilles, l'émission téléchargeable des GBU, la meilleure émission du monde où l'on parle de la Bible, des GBU et de vous.
Aujourd'hui, nous continuons notre réflexion sur l'apologétique, la défense de la foi, et on va commencer tout de suite avec une méditation sur les chapitres 3 et 4 de l'évangile de Jean, en regardant comment Jésus mène ses conversations, la première avec Nicodème et la deuxième avec la femme samaritaine.
Nous allons commencer par Jean 3 et par la conversation que Jésus a eue avec Nicodème. Nous n'allons pas lire le passage parce que sinon ce serait trop long si on lisait Jean 3 puis Jean 4, mais je vais résumer ce qui se passe dans ce passage, dans cette conversation entre Jésus et Nicodème. Vous trouverez cette conversation donc dans le troisième chapitre de l'évangile de Jean, à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Donc vous pourrez le lire après ou avant si vous voulez, mais en tout cas je vais vous résumer cela. Nicodème vient voir Jésus, et là Jésus aurait pu choisir la facilité, parce que Nicodème est un pharisien qui a de bons yeux. Il a compris qu'avec ses miracles, Jésus vient de Dieu, ce qui est déjà un très très bon début, surtout pour un pharisien. Il vient donc le voir à l'abri des regards, mais il confesse d'emblée qu'il est prêt à croire en lui. Même si on n'est pas sûr qu'il voit en lui le Messie. Mais déjà, c'est vraiment super qu'il se déclare prêt à croire en lui. Jésus aurait pu alors surfer sur ce début de confession, mais au verset 3, il lâche une déclaration énigmatique. Voici le déroulement de la conversation. Donc Nicodème vient voir Jésus et lui dit « Je viens t'écouter car tu viens de Dieu ». Ce à quoi Jésus lui répond « Il faut naître de nouveau ». Nicodème rétorque bah, « C'est impossible de naître de nouveau vu que je suis déjà vieux ». Ce à quoi Jésus répond « Il faut être né d'en haut, il faut être né de l'esprit ». C'est un peu bizarre, alors Nicodème demande bah, « Comment on fait ?» Et alors là, Jésus place son enseignement principal. Le but de Jésus est très clair. Il veut pousser docteur Nicodème à ne pas rester sur ses bons acquis et il veut l'amener à se remettre en question. Il se permet même de le tacler personnellement au verset 10 et de critiquer son parti dans les versets 11 et 12. Le verset pivot de cette conversation, c'est le verset 9, car la conversation est destinée à affûter la curiosité de Nicodème. Et ça s'achève avec cette dernière question de Nicodème qui débouche sur l'enseignement de Jésus. Alors quel est cet enseignement? Le premier élément d'enseignement que Jésus veut donner à Nicodème, il se trouve dans les versets 12 à 15. Il s'agit de la différence entre le bas et le haut, ou la terre et le ciel. Nicodème, spécialiste de la loi, ne comprend pas la nouvelle naissance. Il va donc falloir qu'il s'accroche pour comprendre le reste de la révélation qui est encore plus extraordinaire. Pour l'aider, Jésus prend l'image du serpent de bronze de Moïse. C'est un épisode qui nous a raconté dans le livre des Nombres au chapitre 21. Et il se sert de cet épisode du serpent de bronze comme analogie de son œuvre de salut sur la croix. Le deuxième élément d'enseignement, c'est la foi dans le Fils. Et ça, vous pouvez le voir dans les versets 16 à 18. Ici, Jésus annonce très clairement la couleur. Il est le Fils de Dieu qui est venu pour sauver ceux qui croiront en lui. Il n'est pas qu'un nouveau Moïse, ce qui serait déjà très bien. Il est carrément un nouvel envoyé de Dieu. Il est carrément le Fils de Dieu, l'agent par lequel Dieu sauve. Cela confirme ce que Jésus avait déjà dit à propos de la nouvelle naissance. Il faut plus que le respect de la loi de Moïse pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus, le Fils de Dieu. Troisième élément d'enseignement il se trouve dans les versets 19 à 21, c'est la différence entre la lumière et les ténèbres. C'est un grand thème qui va être développé dans tout cet évangile de Jean et qui prépare le lecteur au dénouement final. Les hommes qui sont dans les ténèbres vont rejeter celui qui est la lumière et qui éclaire leurs mauvaises œuvres. Pourtant, certains, grâce à Dieu, vont venir à la lumière et seront sauvés en mettant leur foi en Jésus. Nicodème ne le sait pas encore, mais il fait partie de cela. Et ça, vous pourrez le voir en lisant le chapitre 19 de l'évangile de Jean, à partir du verset 38, où, à la fin de l'évangile de Jean, donc, on reparle de Nicodème et on va voir qu'il est devenu disciple de Jésus.
On passe maintenant à Jean 4, avec la discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Alors au début du chapitre 4, on voit que Jésus et ses disciples veulent passer de Judée en Galilée. Et plutôt que de faire un long détour comme tous les Juifs faisaient à l'époque parce qu'ils s'entendaient pas très bien avec les Samaritains, Jésus décide de tracer tout droit et de traverser la Samarie. Il traverse donc la Samarie et près d'un village nommé Sichar. Il a chaud, il est fatigué, il est midi, il s'installe près d'un puits. Une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau et Jésus commence une conversation. Il lui demande à boire et la femme s'étonne en lui disant « Mais je suis une samaritaine, pourquoi me parles-tu ?» Jésus répond en disant que c'est elle qui devrait lui demander à boire. Elle rétorque que c'est bien gentil mais il n'a pas de seau. Et lui répond qu'il peut lui donner une autre sorte d'eau, une eau qui étanche éternellement la soif. Elle en veut, ça lui dit bien. Comme ça, elle n'aura plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Et c'est là, au verset 16, que Jésus pose la question qui tue. « Va chercher ton mari. » Elle répond qu'elle n'en a pas. Jésus sait et lui dit qu'en effet, elle a eu 5 maris et qu'aujourd'hui, elle est en concubinage. Et là, la femme réalise et lui dit « Tu es un prophète. » Et elle en profite pour poser une de ses questions. « Où doit-on adorer ? Qui a raison, les Juifs ou les Samaritains ?» Jésus lui explique alors que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité et que c'est ni sur une montagne ni un autre endroit qu'on devra adorer. Elle sait ça et elle lui dit qu'elle sait que le Messie un jour expliquera tout ça. Et là, Jésus en arrive là où il voulait arriver en lui déclarant que c'est lui, le Messie. Depuis l'accroche de Jésus au début où il lui demande de l'eau jusqu'à sa dernière parole, c'est une ligne droite qui mène vers son identité messianique avec, au centre de cette ligne droite, la demande de la femme qui veut cette eau que Jésus lui propose et la question qui tue de Jésus au verset 16. Finalement, les disciples reviennent, s'étonnent un peu que Jésus parle à une samaritaine mais n'osent pas trop lui poser la question. Elle part dans le village pour aller dire à tout le monde qu'elle a rencontré un homme qui est peut-être le Messie. Quels sont les enseignements ? Alors, il y en a trois. Dans un premier temps, avec cette question sur l'eau et le fait que Jésus sache où en est la femme de ses différents mariages, on voit que Jésus connaît les besoins les plus profonds de l'être humain, il les connaît et il les comble. Culpabilité, communion avec Dieu, recherche du bonheur, peur de l'avenir, relation avec les autres. Jésus sait quels sont nos problèmes et Jésus peut les régler. La deuxième chose qu'on apprend dans la discussion concernant cette histoire de où il faut adorer, c'est qu'on n'adore pas Dieu n'importe comment. C'est en esprit et dans la vérité. C'est-à-dire, c'est spirituellement qu'il faut adorer, sincèrement, profondément. Ça s'oppose à un culte purement formel dans un lieu saint avec un Dieu limité qu'on met dans une petite cage. Adorer Dieu, c'est partout, tout le temps, et c'est par tous les moyens autorisés par lui. Et la troisième chose qu'on apprend grâce à cette femme, c'est que personne n'est trop pourri pour être sauvé par Jésus. La Samaritaine est non seulement une hérétique, les Samaritains étaient des hérétiques, mais c'est aussi une débauchée. 5 maris, un concubin, ça commence à faire beaucoup. Et c'est elle que Jésus choisit d'utiliser pour se révéler à la ville de Sichar.
Maintenant que nous avons décortiqué ces deux textes, comme nous sommes de bons GBEciens, nous allons chercher... Comment prendre exemple sur Jésus dans les conversations que nous pouvons avoir avec nos connaissances ?
La question, c'est donc comment rendre nos conversations banales intéressantes ? Et je pense que la première chose qu'on voit dans ces exemples, c'est que Jésus connaissait très bien les besoins de ses interlocuteurs.
Dans le cas de Jean 3, Nicodème vient voir Jésus pour en savoir plus sur Jésus, alors que Jésus sait que Nicodème a besoin d'en savoir plus sur lui-même.
Dans le cas de la femme samaritaine, c'est Jésus qui a l'initiative de la conversation, et dans la discussion, on se rend compte qu'au fait, la femme sait qu'elle a besoin d'un sauveur, c'est juste qu'elle ne sait pas où le trouver. Et c'est pour ça que Jésus répond à son besoin le plus fondamental en lui annonçant « Le Messie, c'est moi ». Alors nous, on n'est pas Jésus, on ne peut pas connaître de manière surnaturelle les problèmes et les besoins les plus profonds de nos interlocuteurs, mais on peut se renseigner, on peut discuter avec eux, on peut leur poser des questions, et là, on vous renvoie à toute la discussion qu'on avait eue dans l'émission précédente. C'est important de pouvoir connaître et bien cerner les besoins des personnes avec qui on discute.
C'est pour ça qu'il est interdit d'avoir des relations superficielles avec les personnes que nous connaissons, et de se satisfaire de bien rigoler ensemble ou d'avoir juste des points communs ensemble. Non, il faut vraiment connaître beaucoup mieux les personnes qu'on aime.
Et ça nous amène à la deuxième chose qui rend une conversation intéressante, en tout cas dans ces deux textes-là, c'est que Jésus ne se laisse pas troubler par la banalité des questions de départ. Pour la Samaritaine, la banalité du sujet est évidente. Elle parle d'eau, elle parle de besoins physiologiques. Mais Jésus ne va pas rentrer dans le jeu, c'est lui qui va jouer sur le double sens du mot « eau » pour arriver à une discussion plus profonde.
Dans le cas de Nicodème, c'est un sujet religieux, et c'est pas vraiment banal, puisque quand même il demande à Jésus « Qui es-tu ?» Donc c'est vraiment une très bonne question, sauf que Jésus a discerné que ce qui se cache derrière cette question, c'est pas « Je veux en savoir plus sur toi pour être sauvé », mais « Je veux en savoir plus sur toi alors que j'ai pas grand-chose à me reprocher ». Et c'est là où Jésus place remise en cause personnelle et lui dit « Tu pourras rien comprendre si tu ne nais pas de nouveau ». Et comment fait Jésus pour ne pas rester dans la banalité de la conversation ? Il ponctue la conversation avec des phrases choc, des choses qui remettent bien en question ou qui questionnent l'interlocuteur. Et comme ça, on ne reste pas sur des choses trop molles.
Et la dernière chose que fait Jésus pour que la conversation continue à rester intéressante, c'est qu'il ne laisse pas son interlocuteur dominer la conversation avec des sujets secondaires.
Dans le cas de Nicodème, Jésus va dire des choses très étranges et ça va forcer Nicodème à se questionner. Et même quand Nicodème va se questionner, Jésus va plus ou moins le bâcher quand même en lui disant « Mais alors que tu es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses-là » Et même la deuxième fois, il va lui dire « Mais c'est normal, toi et ton parti des pharisiens, vous prenez pas notre témoignage au sérieux. Du coup, si je suis au niveau maternel et que vous comprenez pas, quand je vais être au niveau lycée ou universitaire, vous allez pas comprendre non plus. » Vraiment, là, Jésus se pose en maître. S'oppose comme quelqu'un qui connaît très très bien les choses, et c'est lui qui mène la conversation de A à Z. Et là, le docteur de la loi, il écoute, il n'a rien d'autre à faire que d'écouter.
Pour ce qui est de Jean 4, la femme samaritaine essaie de prendre le pouvoir sur la conversation, d'abord en essayant d'attaquer Jésus, ou de faire réagir Jésus, en tout cas sur la rivalité juif-samaritain, et puis après, quand Jésus commence à lui parler d'une chose un peu désagréable, à savoir sa vie de débauche, elle essaie de détourner la conversation en posant cette question de « Où doit-on adorer ?» Et Jésus ne tombe pas dans le piège. Jésus ne commence pas à faire un cours d'histoire ou un cours de théologie pour expliquer la différence entre juifs et samaritains et pourquoi les juifs étaient le peuple de Dieu et les samaritains des hérétiques. Il se détourne totalement de cette question pour en revenir à des sujets plus importants, à savoir qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Et il ne s'attarde pas non plus sur la question de l'adultère. Il aurait pu appuyer là où ça fait mal pendant très longtemps pour que la femme comprenne à quel point elle est pécheresse, mais au fait la femme le savait, donc il n'y avait rien à appuyer. Et ça, c'est des sujets secondaires. Et ce qui intéresse Jésus, c'est d'arriver à amener la Samaritaine à comprendre qu'il est le Messie. Et il ne s'embarrasse pas de ces questions. À chaque fois, il revient vers le sujet important, et le sujet important, c'est lui.
Avec Nicodème, Jésus fait absolument pareil, hein, parce que dans son enseignement sur le serpent de bronze et sur Moïse, il va se servir de la culture biblique de son interlocuteur pour dire que justement, dans cette culture biblique, on parle déjà de lui, et tout son enseignement sera tourné vers lui et uniquement vers lui, pour que Nicodème comprenne qu'il n'y a que avec le Saint-Esprit qu'il va pouvoir comprendre toutes ces choses.
Sans transition, nous écoutons un morceau de GBU Musique tiré du psaume 22 « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes si loin, hors de ma portée. J'ai perdu toute sérénité. Ta colère sur moi, tu sens déverser. Pourtant, tu es le roc inébranlable. Toi, saint, tu règnes sur ton trône d'âge en âge. Ton peuple, tu l'as toujours gardé. Il se confiait et tu le délivrais. Moi, j'étais mort, tu m'as. J'étais un lâche, tu es resté mon Dieu. En plein danger, tu m'as protégé. Je ne suis rien, tu m'appelles précieux. Père, tu ne m'as pas abandonné. Tu es un Dieu si riche en bonté. Je serai là en ta présence, éternelle sera ma délivrance.
Après ce merveilleux chant des GBU Musique, nous allons reprendre notre sujet qui, je vous le rappelle, est comment donner de la substance aux conversations parfois superficielles que nous pouvons avoir. Mais avant de vous donner des conseils pour avoir des conversations plus intéressantes, il faut commencer par dire quelque chose d'essentiel, à savoir que avoir des conversations intéressantes et toujours tourner vers Christ, parler de Jésus à nos amis, c'est dur. On n'a pas forcément envie de le faire, parfois on a envie d'être tranquille, on veut garder nos amitiés, on veut pas passer pour quelqu'un de lourd. Et donc, c'est vraiment très très dur de rétablir les choses et de prendre les conversations à notre compte. Surtout si nous avons un caractère du genre à pas faire trop de bruit et à ne pas nous imposer. Donc vraiment, ne nous sentons pas trop coupables de ne pas pouvoir le faire. Parce que d'une part, le salut nous est assuré par le sacrifice de Jésus, et donc notre salut ne dépend pas de cela. Et en plus, nous avons une marge de progression grâce au Saint-Esprit qui agit en nous.
Donc l'idée, c'est de ne pas voir les conseils qu'on va vous donner comme des critères pour évaluer si vous êtes un bon chrétien ou un bon évangéliste ou pas, mais juste comme des challenges, des choses qui vont vous aider à progresser, à avancer et à devenir un témoin de plus en plus efficace. Mais surtout, pas que ce soit pour vous l'occasion de vous culpabiliser ou d'y voir là un échec, puisque de toute façon, la réussite et la victoire, comme Johan l'a dit, elle n'est qu'en Christ. Donc, ceci étant dit, comment donner de la substance aux conversations superficielles qu'on peut avoir ? La première chose qu'on a envie de vous dire, c'est que c'est important que les chrétiens soient des personnes avec qui on a envie de parler. C'est important qu'on tienne bien notre rôle de sel de la terre, de quelque chose qui donne de la saveur, quelque chose qui donne envie de manger plus, d'aller plus loin. Et être des personnes avec qui on a envie de parler, c'est pouvoir avoir des discussions intéressantes, quel que soit le sujet. Et pas forcément sur le sujet de la Bible. C'est possible d'avoir des avis éclairés et intéressants sur tous les sujets, parce que l'Évangile a quelque chose à dire sur tous les sujets. L'Évangile donne non seulement les clés du salut éternel, mais donne aussi toute une vision du monde. Et cette vision du monde nous façonne et nous permet d'avoir des choses à dire sur l'éducation des enfants, un avis sur un film, sur la politique, etc., etc.
Nous sommes tous influencés par quelque chose, et nos amis, nos relations sont aussi influencés par leur mode de vie, par leur philosophie, par leurs parents. Et ce qui est intéressant dans les conversations, c'est de demander à l'autre pourquoi il pense telle chose, pourquoi il a tel goût, pourquoi il aime ou n'aime pas telle chose. Il va nous répondre et il va sûrement nous renvoyer la balle en disant « Pourquoi est-ce que tu penses ça ?» Et nous pourrons placer l'enseignement biblique, enfin nous pourrons placer nos goûts et tout cela, et nous pourrons dire que ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et tout ça, on pourra le mettre en perspective avec la Bible, parce que la Bible fait partie de notre culture et que nous voyons beaucoup de choses au travers de son prisme.
Et ce qui peut être rigolo aussi, c'est quand vous avez comme ça un débat d'idées, des échanges avec vos amis, et que vous arrivez à présenter vos idées qui sont tirées de la Bible, c'est que vous allez sortir une idée très intelligente, très pertinente. L'interlocuteur va être étonné et vous allez lui dire « Ah mais ça, tu sais, c'est la Bible ». Un exemple qui date pour moi juste de la semaine dernière, je discute avec une copine de son nouveau copain, qui selon elle est vachement mieux que l'ancien copain, et on discute un peu des raisons pour lesquelles il est mieux. Et moi, je lui fais mon petit laïus tiré de la Bible sur le fait qu'un homme doit être prêt à sacrifier pour sa femme, que c'est important que les besoins de la femme passent avant ses propres besoins, etc. Elle trouve ça super, trop intéressant, trop cool, trop lumineux. Et à la fin, je lui sors « Ah, mais tu sais ça, c'est dans la Bible. »
Mais il faut s'empresser de rajouter que faire cela n'est pas naturel, qu'on n'a pas forcément cette répartie merveilleuse qui va nous faire dire Jésus et la Bible à chaque détour de conversation. Il faut s'entraîner. Et c'est comme pour répondre aux questions « Si Dieu existe, pourquoi le mal ?» et autres. Il faut avoir lu des choses. Il faut, dans sa tête, moi ça passe beaucoup dans ma tête, je m'imagine des conversations imaginaires, comme quelqu'un qui joue aux échecs tout seul. Je m'imagine en train d'avancer mes arguments et j'imagine quelqu'un d'autre qui répond à mes arguments. Et je m'entraîne, je m'affûte pour le faire. Et je pense que dans les conversations, essayer de faire un rapprochement avec la Bible, il faut se préparer, parce que moi, si je me prépare pas, j'ai pas le courage de le faire. Si j'estime ne pas avoir le temps ou ne pas avoir le bon état d'esprit pour le faire, en fait, il n'y a jamais le temps, il n'y a jamais le bon état d'esprit pour le faire, et je le ferai jamais. Donc il faut vraiment que je me prépare à le faire, il faut que je me dise je vais le faire, il faut que je prie pour, et tout est une question donc d'état d'esprit.
Et si vous n'êtes pas schizophrène comme Johan, vous pouvez aussi vous préparer avec un de vos potes, un de vos GBUciens, discuter un peu de vos amis, des discussions que vous avez, et essayer de voir un petit peu comment vous pourriez rebondir sur ce qu'ils vous disent pour parler de l'Évangile.
Et même encore beaucoup plus drôle, c'est que vous pouvez prendre un ami non chrétien et lui dire « tu es mon cobaye ». Je vais te dire des arguments et tu vas me répondre. Et du coup, vous allez vous entraîner, lui va écouter l'Évangile et ça peut être un truc merveilleux. Et ça va être d'autant plus merveilleux que c'est ce qu'on devrait faire assez souvent. En fait, on devrait être décomplexé en disant « je suis chrétien, t'es pas chrétien pour moi, voilà, ce que tu penses n'est pas vrai, mais j'ai pas vraiment forcément les arguments pour te le prouver. On va discuter ensemble et on va le faire. » Et s'il y a une très bonne relation, ça va bien se passer, ça va être très riche. La personne ne va pas forcément se convertir, mais ça va donner quelque chose d'absolument merveilleux. Et je pense qu'on devrait avoir cette liberté avec nos amis de faire cela. Ce sera bénéfique pour nous et pour eux, et pour l'avancement de l'Évangile.
Dans la même idée aussi de développer ses réflexes, c'est aussi bien de pouvoir tout lire à travers le prisme de l'Évangile. Toutes les choses de votre quotidien, les films que vous allez voir, la musique que vous allez écouter, le cours que le prof va donner, d'arriver à lire tout ça à travers la révélation biblique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et si vous arrivez à le faire pour vous-même, si vous arrivez vous-même faire un rapport entre ce que vous entendez, quel que soit le contexte, et la vision chrétienne du monde, vous allez pouvoir aussi après la restituer à vos amis non chrétiens dans les conversations. Je suis allée voir au-delà de Clint Eastwood. Et j'ai remarqué que toutes les personnes qui allaient voir Matt Damon pour lui demander de parler avec des morts étaient traumatisées par une seule chose, elles voulaient qu'on leur demande pardon. Et donc quand je discute après avec mes amis de ce film, je vais pouvoir leur dire c'est quand même hallucinant que ce soit cette question de culpabilité et de pardon qui soit prenante, mais à la fois c'est pas tant hallucinant que ça, parce que la Bible dit que c'est le problème principal de l'homme, et hop hop hop, discussion sur l'évangile.
Mais ce dont je m'aperçois, c'est que on a un peu de mal parfois à voir ces réactions un peu incisives avec nos amis, parce qu'on a peur de mal répondre, on a peur de nous-mêmes souvent, on a peur qu'ils nous posent la question qui tue, ou on a peur qu'ils nous disent des choses qui nous plaisent absolument pas, on a peur de pas être à la hauteur, de commencer un raisonnement et de pas le finir, et c'est vraiment ça nous arrive à tous, mais je pense qu'il faut faire confiance à Dieu là-dedans, et que même au travers de nos faiblesses, même quand vous n'avez pas l'air d'être très sûr de vous, et ben Dieu peut quand même se servir de vous pour toucher vos amis.
Et ça va vous arriver forcément dans les discussions de vous retrouver dans cette situation où on vous pose la question qui tue, où vous vous emmêlez dans un raisonnement. Plus vous allez témoigner et plus ça va vous arriver, mais c'est pas grave au fait, parce que vos amis attendent de vous que vous soyez naturel avec vos faiblesses et ils sont pas traumatisés. Moi ça m'est arrivé des centaines de fois de m'empêtrer dans des trucs sans savoir où j'allais, et ça les fait sourire, ils me trouvent mignonne, et puis on passe à autre chose. Donc c'est pas du tout la fin du monde, vous êtes pas là pour réussir, pour gagner, vous êtes juste là pour être vous-même, et c'est ça qui va faire que la relation avec eux et la discussion pourra aller un petit peu plus loin la prochaine fois.
Et faut pas oublier que la vie chrétienne est une question de maturation. Dieu nous éduque au travers de tous les événements par lesquels nous passons, et moi je me suis vraiment aperçu qu'il y a beaucoup de plantages dans ma vie qui me sont arrivés pour m'entraîner et pour que je comprenne des choses et pour que je sois meilleur aujourd'hui. Et ça, je ne le savais pas sur le coup. Sur le coup, comme le disait Marion, j'avais envie de réussir tout de suite. J'avais envie que les personnes se convertissent tout de suite. Mais Dieu n'était pas d'accord avec moi, a priori. Et surtout, Dieu se servait de ces conversations pour m'entraîner moi et pour avoir plus d'expérience et pour savoir maintenant dans quel piège il ne faut jamais tomber. Ce qu'il ne faut pas dire, et ça c'est quelque chose qu'on comprend avec le temps, mais puisque maintenant nous sommes des vieux avec beaucoup d'expérience, vous pouvez nous croire.
Et pour progresser, la question importante qu'il faut se poser, c'est quels sont les obstacles ? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin dans les conversations ? Et je pense que la première chose, Johan va nous en parler, c'est qu'au fait on a toujours très envie d'avoir un consensus avec la personne avec qui on parle.
Ouais, on est super content de bien nous entendre avec les personnes. Quand on a commencé à tout petit peu placer l'évangile dans une conversation, on s'en contente très bien. Alors que ce qu'on voit dans les conversations de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est qu'il n'hésite pas à aller beaucoup plus loin. Il met la barre très haut. Il a un objectif, c'est que les personnes comprennent qu'elles sont pécheresses, qu'elles ont besoin de Dieu, et que lui, c'est le Fils de Dieu, seul moyen de salut. Voyez la barre, à quel point elle est très haute. Et nous devons faire pareil. Nous devons à la fois, par petites escarmouches, commencer à esquisser l'évangile, à commencer à parler de Jésus, à commencer à parler de la pertinence du message biblique pour la vie de tout le monde. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi commencer à dire qu'on est tous pécheurs, que la personne à qui on parle, elle aussi, elle a besoin de Dieu, et qu'elle peut être sauvée. Et donc, ne jamais se contenter de questions superficielles. La question la plus superficielle que je connaisse, dans laquelle on tombe la plupart du temps, c'est la différence entre catholique et protestant. Quand notre interlocuteur nous pose la question « c'est quoi la différence entre catholique et protestant ?», on se dit « ouais, c'est génial comme question !» Et du coup, on s'engouffre dans le piège le plus absolu, c'est passer une demi-heure à dire plus ou moins du mal des catholiques qui pensent mal, à dire du bien des protestants, mais à ne presque jamais parler de l'essentiel, c'est-à-dire l'évangile. Et ça, c'est vraiment problématique. Si quelqu'un nous parle de la différence entre catholique et protestant, il faut directement lui dire que c'est pas ça l'essentiel. Et qu'il y a des différences entre catholique et protestant, mais que notre point commun, c'est Jésus. Et que du coup, il faut croire en Jésus. Et que nous sommes tous pécheurs. Et que nous avons besoin de lui pour être réconciliés avec Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Ne pas se satisfaire du consensus, mais aller, ne pas avoir peur d'aller, pas au clash, mais d'aller vers les questions qui font mal.
Un autre obstacle possible est le fait de ne pas être prêt à se dévoiler. Quand on parle de la question de l'existence de Dieu, quand on parle de la question de l'état de pécheur, on parle d'intimité, c'est des sujets intimes. Et si vous voulez parler de choses intimes avec votre interlocuteur, il faut que vous soyez prêt, vous-même, à parler de vous. À dire votre rapport au péché, votre rapport à Dieu, et être prêt à vous dévoiler. Dire comment vous vous sentez par rapport à un sujet, pour que la personne en face vous dise comment elle se sent, et pour pouvoir après rebondir sur votre espérance et l'espérance que vous lui proposez. On n'a pas envie de se dévoiler, on n'a pas envie que les gens sachent des choses sur nous, parce qu'on a l'impression qu'on est en danger, qu'on est fragile. Mais le relationnel, c'est se dévoiler, et on ne peut pas demander à la personne de nous faire confiance pour le truc le plus important de sa vie, à savoir sa relation avec Dieu, si nous, on n'est pas prête à lui faire confiance en lui disant des choses sur profondes, et pas juste des trucs que vous avez appris à l'église ou à l'école du dimanche et que vous récitez, des choses profondes sur votre rapport au monde, votre rapport à vous-même et votre rapport à Dieu.
Et se dévoiler, ça veut parfois dire avouer qu'on ne sait pas tout, qu'on est moins intelligent, moins cultivé que son interlocuteur. On peut dire que nous, on n'a pas vécu forcément des choses ultra douloureuses et qu'on a vécu dans une famille chrétienne et que on n'a pas eu à faire une sorte de grand saut dans le vide pour avoir la foi. On peut l'avouer, ça.
Le troisième obstacle qu'on peut voir aussi, c'est que des fois, on est un petit peu paranoïaque. On voit du mépris là où il n'y en a pas, on voit des attaques là où il y a une simple question innocente. Et c'est vraiment important de ne pas projeter sur les gens des fantasmes qu'on a sur le fait qu'on va être rejeté, martyrisé, et de juste s'en tenir à la question que la personne pose, à la remarque qu'elle fait, sans tout de suite la soupçonner de vouloir nous persécuter, de vouloir dire du mal des chrétiens, mais d'écouter vraiment ce qu'elle a à dire et de ne pas faire la conversation dans notre tête, parce que finalement, tout va devenir dramatique. Si on commence à parler avec nous-mêmes, on va tout de suite imaginer le pire, les pires remarques, les pires intentions, et ça va nous déprimer plus qu'autre chose.
Et ça va aussi nous faire paraître coupables, parce que parfois on aborde toutes ces conversations avec le présupposé que le monde entier déteste les chrétiens et que nous sommes voués à la persécution, car c'est l'antichrist qui règne dans ce monde, et que à chaque fois que quelqu'un va nous parler ou va nous poser des questions, on se sent visé, on se sent coupable, et ça ne va pas bien se passer parce que déjà notre tête va être une tête de personne sur la défensive, de personne totalement effrayée, prête à mordre toute personne qui l'agresse un peu trop. Ça va pas vraiment instaurer un climat de confiance. Donc, ayons confiance. Ça rejoint cette idée de dominer la conversation, en tout cas de prendre la conversation à son compte. Si vous voulez prendre la conversation à votre compte, il faut déjà avoir confiance. Et si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas très grave. Le principal, c'est d'avoir confiance en Dieu. Et de savoir ce que vous voulez dire. Et je peux vraiment vous promettre que la plupart du temps, votre interlocuteur n'est pas méchant. Il va plutôt bien accepter ce que vous allez dire. Il va même vous poser des questions. C'est assez dingue comment nous projetons nos propres peurs sur les autres. Et il faut vraiment en être conscient pour corriger le tir.
Et le dernier obstacle, et sans doute celui qui vous inquiète le plus, c'est tout simplement le manque de connaissances. Je connais pas assez ma Bible, j'ai pas assez de culture pour arriver à tenir ce genre de conversation. Et c'est là que le GBU peut vous aider.
Les GBU mettent à votre disposition un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de progresser. Le premier dont j'aimerais parler, c'est le camp À fond la forme, qui a lieu tous les ans, la dernière semaine d'août. C'est un camp absolument merveilleux dans lequel il faut s'inscrire pendant une semaine. On est avec 80 GBUciens qui sont là pour apprendre, pour en savoir plus sur la Bible. C'est une semaine à lire la Bible, à se former à l'étude biblique, à la discussion, à vraiment être reboosté dans sa foi et surtout à aborder la rentrée de manière sereine et confiante. La deuxième chose, ce sont les dialogues Veritas qui sont organisés toute l'année et votre GBU peut en organiser un l'année prochaine. Ça consiste à répondre aux trois questions à propos de la foi les plus posées par les étudiants d'une ville. Et pour répondre à ces questions, il y a deux intervenants qui sont spécialisés là-dedans. Et vous pouvez écouter les réponses qu'ils donnent à ces grandes questions à propos de la foi, vous pouvez voir comment ils répondent aux étudiants qui participent à ces soirées et qui posent des questions parfois ardues, vous pouvez voir la manière dont ils font les choses, vous pouvez voir les arguments qu'ils utilisent et vous pouvez essayer de les imiter. Mais la première chose à faire déjà, c'est d'inviter vos amis lors de ces dialogues Veritas pour que vos amis en direct aient les réponses à leurs questions.
Ensuite, le GBU peut aussi vous proposer des livres. Alors on peut commencer avec toute la collection des questions suivantes. Vous avez toutes sortes de thèmes qui sont traités dans les questions suivantes et vous allez sans aucun doute en trouver un qui va pouvoir être intéressant pour vos amis, pour les gens que vous fréquentez. Et puis particulièrement, il y a aussi le livre « Questions autour de Dieu » qui reprend toutes les expériences faites des dialogues Veritas. Et en gros, ce sont les questions principales, les questions les plus posées et des réponses qui sont proposées. On peut aussi vous conseiller un livre qui est sorti cette année, le livre de Timothy Keller, La raison est pour Dieu. C'est un livre qui est sorti aux éditions Clé. Et là, vous avez une approche apologétique qui est hyper complète. Vous avez la première partie où c'est comment répondre aux questions difficiles et la deuxième partie où c'est comment donner des arguments pour la foi. Et si vous aimez Timothy Keller et si vous êtes à chaque fois touché et enthousiasmé par les nombreuses citations qu'il fait de C.S. Lewis, vous pouvez monter une marche en plus et lire la totale de C.S. Lewis, ou en tout cas les ouvrages principaux, par exemple
Dieu au banc des accusés, qui traite d'un certain nombre de sujets vraiment très très intéressants de manière très originale. C'est du C.S. Lewis, donc il faut quand même un peu s'accrocher, mais c'est vraiment, ce sont vraiment des raisonnements lumineux qui répondent à pas mal de choses que disent encore nos amis. Et j'ai un autre livre à vous conseiller qui reprend les argumentations de C.S. Lewis, qui s'appelle « Dialogue entre le ciel et l'enfer ». C'est d'un professeur de philosophie qui s'appelle Peter Crift, et c'est aux éditions Farrell, qui est vraiment aussi très 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 bien.
Et si vous nous trouvez légèrement has-been avec nos livres et que vous êtes passé à l'ère du numérique et du tout internet, on a aussi des sites à vous proposer. D'abord le site du GBU, www.questionsuivante.fr, où là vous avez encore une fois les questions les plus souvent posées lors des dialogues Veritas et des réponses qui sont proposées. C'est vraiment un site dont il faut donner l'adresse à vos amis qui se posent des questions, parce que c'est vraiment fait pour les non-chrétiens, ils vont y être très à l'aise. Mais on peut aussi vous en proposer d'autres. Par exemple, un poisson dans l'Et. Donc, vous tapez un poisson dans l'Et dans Google, vous tombez directement dessus. Ou alors, de la grâce dans l'encrier. Pareil, vous tapez de la grâce dans l'encrier sur Google et vous tombez dessus. C'est un site tenu par le prof d'apologétique de la faculté d'Aix-en-Provence. Il est hyper bien fait. Il y a à la fois des réponses aux questions que vous vous posez, mais il y a aussi des ponts qui sont créés entre des films qui sortent, des expositions qui ont lieu et l'évangile.
Et puisque vous avez tous envie de vous ruer sur chacun de ces produits, nous allons vous dire au revoir. Mais avant de se dire adieu, rappelez-vous une chose essentielle. Détendez-vous, Dieu est souverain.